Europe 1,
14h-15h,
On de la traconte.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, un meurtre commis en août 2015 à Toulouse sur fond de toxicomanie. Le meurtre d'Eva Bourceau, 23 ans, que l'on retrouve l'image à marquer baignant dans un bain d'acide chlorhydrique. Et pour vous raconter cette histoire, de la découverte du corps d'Eva jusqu'au procès de ses tueurs, je vais m'appuyer sur le travail très complet d'une journaliste qui s'appelle Élise Costa et qui est là avec moi. Bonjour Élise.
Bonjour.
Vous racontez toute cette histoire dans une série de 9 articles, 9 épisodes en vérité, qui ont été publiés en décembre 2018 sur le site Slate.fr. C'est un travail donc de presse écrite, mais en épisode, ce qui est en même extrêmement rare, que j'ai trouvé vraiment très intéressant comme démarche, même si moi là-dedans il a fallu que je trouve mon chemin pour tracer l'histoire qui va suivre, que j'ai écrite avec Thomas Oudouard. Réalisation, Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
C'est souvent pareil, un meurtre. Ce sont d'abord des gens qui s'inquiètent de ne pas avoir de nouvelles. Et début août 2015 à Toulouse, en Haute-Garonne, on s'inquiète pour Eva. Eva Bourceau, 23 ans. Ça fait une semaine qu'elle n'a appelé personne. Ni ses copines, ni ses parents. Et sa mère s'inquiète vraiment. Texto, coup de fil, Facebook, d'une manière ou d'une autre, Eva est tous les jours en contact avec sa famille. Elle n'a plus rien. Les copines, en revanche, au début, ça ne les surprend qu'à moitié. Elles se sont engueulées la dernière fois. Et puis tout de même, au bout d'un trop long silence, l'une des copines vient sonner à l'interphone du voisin du dessous.
Allô, oui ?
Allô ? Bonjour. Je suis une amie de votre voisine du dessus, Eva. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas de nouvelles. Vous savez si elle est là ou si elle est passée ces derniers jours ? Non. Il ne sait pas, même si en vérité, sa colocataire a entendu du bruit au-dessus, un matin, vers 7 heures. Une voix de femme, étouffée.
« Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous !»
Ils en ont parlé. Mais en même temps, Eva fait souvent des soirées, il y a toujours du monde chez elle. Ils ne se sont pas inquiétés. Un matin, le voisin entend la porte du bas s'ouvrir. Bizarre. On est au mois d'août, tout le monde dans l'immeuble est en vacances, ils ne sont que 3, lui et sa coloc, et Eva au 3e. Et il entend des pas dans l'escalier, qui montent droit au 3e. Alors il enfile un t-shirt, un jogging, il se rend chaussette pour ne pas faire de bruit, et il monte. Et il arrive devant la porte d'Eva, et il tend l'oreille. Rien. Pas un bruit. En revanche, une odeur. Pouah ! Une odeur d'ailleurs qu'il avait déjà remarquée dans l'immeuble. Il avait pensé aux poubelles, à la chaleur. Mais là, c'est puissance 10 000. Honnêtement, ça sent la mort. Alors il redescend sur la pointe des pieds. Il rentre chez lui. Et là, juste au-dessus, il entend un grincement. Il attrape son téléphone, il a le numéro de l'une des copines d'Eva, et il lui envoie un texto. « Il y a quelqu'un chez elle. Je suis allé toquer, ça n'a pas répondu. Je suis sûr que ça n'est pas elle, faut pas se foutre de ma gueule. » Et là-dessus, le voisin part travailler. Et en arrivant dans le hall, bizarre, la porte d'entrée est grande ouverte. Je vous l'ai dit, la voisine du premier est en vacances, il n'y a personne d'autre que lui et sa coloc au deuxième, et en principe Eva au 3e. Alors qui a laissé la porte d'entrée ouverte ? Le lundi 3 août, ça fait 8 jours que personne n'a de nouvelles d'Eva. Sylvie, sa mère qui habite dans l'Aude, débarque à Toulouse. Au passage, elle embarque Camille, une copine d'Eva, et elles arrivent toutes les deux devant l'immeuble. C'est le voisin du dessous qui leur ouvre. Elles montent, elles arrivent devant la porte, et l'odeur. Elles appellent tout de suite les pompiers.
Allô ?
Oui, bonjour. Voilà, je suis au 38 rue Merly. Ça fait 8 jours que je n'ai pas de nouvelles de ma fille. Devant chez elle, il y a une odeur terrible. Vous pourriez venir voir ? Les pompiers arrivent. Ils déploient leur grande échelle. Un pompier grimpe sur le toit. Il marche jusqu'au Velux de la chambre d'Eva.
On voit rien. Il y a une feuille de papier collée sur la vitre.
Mais dans un coin, le papier n'est pas bien collé. Alors il regarde.
Allez-y, foncez! Ouvrez la porte!
Ce que ce pompier vient de voir par le petit trou dans le papier, il ne l'oubliera jamais.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui le meurtre d'Eva Bourceau, en août 2015, à Toulouse. Et je tire mon récit d'une série en 9 épisodes, publiée en décembre 2018 sur le site slate.fr. Une enquête de la journaliste Élise Costa, qui sera avec moi tout à l'heure. Nous sommes au tout début de l'histoire. Eva Bourceau, 23 ans, n'a pas donné de nouvelles depuis 8 jours. Mais le voisin du dessous a été intrigué par des allées et venues. La mère fait venir les pompiers. Ils grimpent avec la grande échelle jusqu'au Velux au-dessus de sa chambre et ils ordonnent qu'on enfonce la porte. Les pompiers entrent dans le salon. Sur la porte de la chambre d'Eva, il y a du scotch partout autour. Et sur le bas de la porte, un vêtement roulé. C'est pour l'odeur. Ils donnent un grand coup de pied dans la porte. Et ils entrent. Et là, l'odeur devient insupportable. Au pied du lit, il y a une malle en plastique. Et dans la malle, il y a un corps recroquevillé. Un corps qui baigne dans un liquide rougeâtre. De l'acide chlorhydrique. De l'acide qui a commencé à ronger le corps. On voit des os, mais on voit aussi des plaies. On voit des coupures. Eva avait 23 ans. Débarque le capitaine Sens de la police, qui découvre l'appartement. Près de l'entrée, il y a 12 de sacs poubelles noirs, fermés, qui contiennent, semble-t-il, toutes les affaires d'Eva. Les policiers notent aussi la présence d'un pied de biche et d'un fauteuil renversé. Au petit matin, arrive le médecin légiste. 25 ans d'expérience. Eh bien, il n'a jamais vu un truc comme ça. Un corps à moitié rongé dans un bain d'acide chlorhydrique.
Bon, l'idéal serait de descendre le corps dans la malle, hein? Mais avec l'escalier, qu'est-ce que vous en pensez? Un escalier à un colimaçon, on va pas y arriver. Moi, je pense qu'on risque de renverser l'acide.
Et donc, on fait des prélèvements du liquide. On vidange la malle et on emmène le corps à l'Institut médico-légal à Rangueil. Le capitaine Sens de la PJ appelle le père d'Eva.
Bonjour monsieur. Capitaine Sens de la police judiciaire à l'appareil. Bon, je voulais vous dire que je suis papa, moi aussi. Je comprends bien ce que vous devez ressentir. Je voulais vous dire qu'on va les retrouver, hein? C'est une question de temps, mais on va les retrouver. À part ça, il faut que je vous dise quelque chose que vous devez savoir, autant que vous ne l'appreniez pas par la presse. Votre fille dealait. Elle dealait de la drogue. Bon, c'était pas Pablo Escobar, hein, mais elle dealait. Je vous tiens au courant de la suite, monsieur.
« Cette enquête va aller très vite. Car le surlendemain de la découverte du corps d'Eva, dans la malle, un couple se présente au commissariat central de Toulouse. Lui s'appelle Tara, et elle, c'est sa petite amie. Et c'est lui qui parle.
Bonjour. Voilà, j'ai des informations à vous donner sur la mort d'Eva Bourceau.
D'accord. Eh bien, écoutez, là, vu l'heure, il faudra repasser. Vous pouvez revenir vers 14h.
Ils reviennent. Et Taha, devant les policiers, balance un de ses copains, Zacharia.
Zach, il m'a dit, j'ai fait de la merde, j'ai tué Eva. C'est lui qui a eu l'idée de l'acide et de la malle et de tout ça, quoi.
Et vous pouvez nous dire comment ça s'est passé?
Moi, j'y étais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu une bagarre, que Zach a frappé Eva avec un poing américain.
Dans la foulée, le copain Zach, de son vrai nom Zacharia Banouni, 18 ans, est interpellé. Et je m'arrête d'ailleurs deux secondes sur ce moment, sur son arrestation. Zach, on le verra, est un toxicomane, un gamin au bout du rouleau. Dans les semaines qui ont précédé son arrestation, il s'est défoncé. Il avait un boulot, il n'y est pas allé. À la veille de son arrestation, ses parents sont allés le chercher dans l'appartement où il squattait. Ils l'ont trouvé maigre, blafard, un zombie. Ils ont réussi à le ramener à la maison. Ils ont dormi près de lui. Et le matin, ils l'ont emmené à son boulot dans une déchetterie. Ils avaient réussi à le remettre au travail. C'était une petite victoire. Et le soir, en rentrant, Zach, leur fils, se fait arrêter pour meurtre. À 22h30, Zach est amené dans un bureau pour un premier interrogatoire. Il est dans un sale état.
J'ai mal à la tête. J'ai envie de dormir.
Avec tout ce qu'il prend, ça fait 8 jours qu'il n'arrive pas à dormir. Alors on fait venir un médecin qui écrit sur son rapport « Avis psychiatrique souhaitable ». Le lendemain, Zach a dormi.
Je vais essayer de vous parler.
Et il raconte une histoire très différente de celle de Tara. Pour que vous compreniez, dans cette histoire, ils sont 3 copains. Tara, Zach et Guillaume. Ils sont toxicomanes tous les 3, mais Guillaume est leur dealer. Et voilà ce que raconte Zach.
Avec Tara, on est allé chez Eva pour la cambrioler. On voulait voler sa drogue et son argent. T'as avait une dette auprès de Guillaume, le Chinois.
Mais il dit que ça ne s'est pas passé comme prévu. Que quand ils sont arrivés, Eva était chez elle. Alors ils sont allés faire un tour. Quand ils sont revenus, elle était encore là. Alors ils sont montés. Ils ont passé toute la nuit avec elle à consommer de la drogue, en matant des documentaires sur Arte. Au petit matin, il dit qu'Eva était fatiguée, qu'ils sont partis de chez elle. Et puis qu'ils ont décidé d'y retourner. Taha a sonné en prétextant avoir oublié ses clés. Ils sont montés. Taha avait un pied de biche et lui, un poing américain. Et Zach dit que c'est lui qui frappe le premier, jusqu'à ce qu'elle tombe. Et que là, Taha se penche sur elle.
Où est l'argent? Où est l'argent? Derrière le fauteuil.
Selon Zach, Taha ne trouve pas l'argent. Alors il revient vers Eva avec son pied de biche en hurlant.
Où est l'argent?
Et bam, il lui balance son pied de biche sur la tête. Le pire, c'est que l'argent, il va finir par le trouver, 900 euros derrière le fauteuil. Mais Eva, elle est morte. Mais Zach n'a pas encore tout raconté. Et après, d'où vient cette idée folle d'avoir mis le corps d'Eva à dissoudre dans de l'acide chlorhydrique pendant une semaine? Europe 1, Europe 1. Je vous raconte aujourd'hui le meurtre d'Eva Bourceau, en août 2015, à Toulouse. Et je tire mon récit d'une série en 9 épisodes, publiée en décembre 2018 par le site Slate.fr. Une enquête de la journaliste Élise Costa, qui sera avec moi tout à l'heure. Le 3 août 2015, on retrouve Eva Bourceau, chez elle, morte, baignant dans un bain d'acide. Deux jours plus tard, un dénommé Taha se présente aux policiers et accuse un de ses copains, Zach. Placé en garde à vue, Zach reconnaît sa participation au meurtre, mais prétend que le coup mortel a été donné par Taha. Mais qui a eu l'idée du bain d'acide ? Après le meurtre, Taha et Zach rentrent chez eux, sonnés. Ils diront qu'ils n'arrivent pas à croire ce qu'ils ont fait. Ils voudraient que ce soit un mauvais trip. Et puis ils y retournent. Ils vont dans l'appartement et le cadavre est vraiment là. Et à ce moment-là, selon Zach, Taha aurait dit
« Eh mec, je nous ai mis dans la merde. Je vais nous en sortir. »
Et c'est Taha qui aurait eu l'idée de l'acide. Ils l'auraient vu dans la première saison de la série Breaking Bad, figurez-vous. Et donc ils vont acheter 3 bidons de 5 litres d'acide chlorhydrique au casino de la place Saint-Georges, c'est en vente libre. Et puis ils achètent une malle, place Esquirol, et ils mettent le corps d'Eva dedans. Ça leur prend du temps, le corps est trop grand, il faut le plier. Et là ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas assez d'acide, 15 litres ça ne suffit pas, alors ils retournent en acheter 12. Et après, tous les soirs, ils viennent voir si ça avance, si l'acide a mangé le corps. Et ça va moins vite que dans Breaking Bad. Voilà, on a deux versions différentes. Taha qui accuse Zach et Zach qui s'accuse et qui accuse Taha. On a donc tendance à croire Zach puisqu'il s'accuse aussi. Et je vous le dis tout de suite, Taha finira par reconnaître que ça s'est passé comme Zach l'a dit. Comme je viens de vous le raconter. Alors je ne sais pas quelle idée vous vous faites de ces deux garçons qui viennent d'être arrêtés. Taha Mrani Alaoui et Zakaria Banouni. Ces deux petits toxicos qui viennent de tuer Eva. Eh bien je crains que vous ne soyez surpris. Parce que Zach et Taha sont des matheux brillants. Zach sort du lycée Fermat, le plus grand lycée de Toulouse, où il a remporté un prix aux Olympiades scientifiques. Avec deux amis, il a inventé une main articulée qui traduit la langue des signes. Quant à Taha, il a raté d'un quart de point l'entrée à Polytechnique. Mais il a intégré une grande école d'ingénieurs. Ce sont des crânes d'œufs, ce ne sont pas des petites frappes. Et c'est ce qui a fait le succès de cette histoire dans la presse, le décalage entre le milieu des deux accusés et le crime. Zakaria, par exemple, vient d'un milieu modeste. Il a été repéré en terminale comme élève brillant par la fondation de la Dépêche du Midi. Il a reçu une bourse pendant 2 ans et bénéficié de l'accompagnement d'un tuteur qui, d'ailleurs, quand il apprend ce qui s'est passé, n'en revient pas. Zach ? C'est pas possible, il a eu un rôle périphérique. Ah non, non. Non, il a eu un rôle central. Central ? Zakaria ? Mais c'est lui... est capable de faire un truc pareil, alors n'importe qui peut faire ça. Le tuteur est tellement surpris qu'il ne le lâchera pas. Il ira le voir en prison. Quant à Taha, il est marocain, arrivé récemment en France. Mais au Maroc, il vient d'un milieu favorisé. Alaoui, c'est son nom. Et c'est une famille de lignée royale. Le père est journaliste, la mère est chef de laboratoire. C'est un gamin qui a été choyé, encouragé dans ses études. Alors qu'est-ce qui les a fait basculer tous les deux ? La drogue ? Voici une liste des drogues que Zach, Taha et Eva pouvaient prendre au cours d'une seule soirée. MDMA, ecstasy, champignons hallucinogènes, cocaïne, morphine, LSD et kétamine. Voilà à quoi ils carburaient, tous les trois. Je ne vous ai pas encore parlé de Guillaume, dit le Chinois. C'est leur dealer. Lui aussi est interrogé.
Ben, je reconnais que je connais ta... et Eva. C'est moi qui les fournissais pour leur petit trafic. Moi, le produit, je le trouve sur le Darknet. Mais les decks d'Eva, ça n'a jamais existé, hein. Eva, elle payait toujours comptant.
Et comme ce Guillaume n'apparaît sur aucune des caméras de vidéosurveillance de Toulouse, alors que les deux autres, oui, les policiers finiront par le relâcher. Plus d'un an après le crime, en octobre 2016, une reconstitution est organisée dans l'appartement d'Eva, qui est tellement petit qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Les avocats, les policiers et le légiste sont obligés de suivre la scène sur un écran vidéo. Zach et Taha refont les gestes. Zach a bien frappé Eva avec un poing américain. Et ensuite Taha avec un pied de biche. Mais est-ce qu'on est certain que c'est le pied de biche qui tue Eva? Le juge pose la question au légiste.
Non. Non, intellectuellement, je ne peux pas vous dire ça. Vous ne pouvez pas dire que c'est le coup porté avec le pied de biche qui tue Mademoiselle Bourceau. Non. À l'autopsie, on constate assez peu de dégâts cérébraux. Moi, je n'exclus pas qu'elle soit morte d'asphyxie, même si j'en ai pas de certitude.
Un premier procès se tient en octobre 2018. Il ne s'agit pas encore de les juger pour le meurtre d'Eva, mais de les juger d'abord pour trafic de stupéfiants devant le tribunal correctionnel. Procès absolument sans enjeu pour Taha et Zach, mais important pour leur copain Guillaume, dit le Chinois. D'entrée, le président du tribunal avertit la salle.
Les faits reprochés sont à l'arrière-plan criminel. Hein, on ne peut pas les évoquer sans évoquer ce qui s'est passé ensuite. C'est ce qui vous relie, tous ici.
À l'issue, Taha, Zach et Guillaume sont condamnés à 18 mois ferme. Mais ils savent que cette peine sera absorbée par la prochaine. Car maintenant, il faut juger Taha et Zach pour le meurtre d'Eva devant la cour d'assises.
Europe 1. Europe 1. On de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'assassinat d'Eva Bourceau en août 2015 à Toulouse et je tire mon récit d'une série en 9 épisodes publiée en décembre 2018 par le site Slate.fr par la journaliste Élise Costa qui sera là tout à l'heure. Le 3 août 2015, on retrouve Eva Bourceau chez elle, morte, baignant dans un bain d'acide. Assez vite, deux de ses copains, Taham Rani Alaoui et Zakaria Banouni, deux brillants étudiants en mathématiques, avouent qu'ils l'ont tuée pour la voler. La victime et ses deux tueurs étaient tous les trois toxicomanes. Le procès d'assises débute le 10 décembre 2018 devant la cour d'assises de Haute-Garonne. Et tout l'enjeu est de comprendre comment deux étudiants brillants en sont arrivés là. Pourquoi ça a déraillé? Tout le monde se pose la question, y compris les parents à la barre. Le père de Zach, par exemple.
On n'a rien vu. On n'a rien vu.
Et sa mère aussi.
Je comprends pas comment ça s'est passé. Pourtant, j'ai toujours fait attention.
Idem pour Nicolas, un copain de Zach, qu'il a reçu chez ses parents une semaine avant le meurtre.
Quand j'ai vu ça dans le journal, j'ai dû faire au moins deux nuits blanches. Comment? Mais comment la personne que je connais qui aurait fait de mal à personne, qui jouait la veille avec mon petit frère au trampoline. Comment il a pu en arriver là? Ça a été une claque pour moi.
Idem encore pour Walid, un copain de Taha.
Ça colle pas. Taha, c'est vraiment un mec doux, timide. C'est pas du tout le profil de fait entrer l'accusé. C'est pas possible. Il a grandi dans une famille qui lui a tout donné.
Alors on cherche du côté de la pression, pression familiale d'abord. Tara explique.
Au collège et au lycée, tous les professeurs connaissaient le parcours de ma grande sœur. Alors il fallait que je fasse au moins aussi bien, si c'est mieux qu'elle. C'est là que ça a commencé, la concurrence.
Tara qui parle aussi de son échec à Polytechnique.
Si ça avait été un point ou deux points, mais là, raté de si peu, un quart de point, je pouvais pas l'accepter.
Pression aussi du côté de Zach, premier enfant d'une famille d'immigrés. À la barre, c'est lui qui en parle le mieux.
La pression dont j'ai souffert, c'est celle que je me suis mise moi-même.
Etard a deux fois Polytechnique et Zacharia ne peut pas intégrer la filière PSI en maths P dont il rêvait. Il échoue en deuxième année de licence de maths. A priori, c'est à ce moment-là qu'ils décrochent tous les deux et qu'ils se mettent à consommer des stupes et que leurs copains les voient devenir gris, verdâtres.
Au début, ils passaient tout leur temps à parler de maths. Et puis à un moment, ils n'ont plus parlé que de drogue. Leur consommation a complètement modifié leur rapport au monde. Elle a créé un chaos dans leur esprit.
Zach dit aussi.
Je ne sais pas comment vous expliquer la drogue. Elle présente un certain intérêt.
Leurs amis viennent raconter. La table basse dans le salon chez Tara, un étal de cam. Des pilules d'ecstasy, des parachutes de MDMA, des amphétamines, de la mescaline, de l'herbe, de la cocaïne, à profusion. Les gens passent, ils consomment sans payer. À la barre, Tara raconte.
Le lendemain d'une soirée, je me suis aperçu que j'avais offert pour l'équivalent de 1000 euros de drogue. Je payais tout. Je pensais que l'argent pouvait acheter l'amitié. Après, je me suis aperçu que j'avais plus de problèmes que d'amis.
Et Zach complète.
Mais c'est là que ça a commencé à se compliquer. Ça représentait quand même un budget, 1000 euros. Alors Tara m'a fait culpabiliser. Il m'a dit, c'est pas normal de perdre autant d'argent en une soirée. Il m'a dit, tu vas m'aider à me remettre d'aplomb.
On essaye de savoir qui a proposé à l'autre de devenir dealer. Est-ce que c'est Zach? Est-ce que c'est Tara? Ils ne savent plus. Mais Tara a dit...
J'ai été une mauvaise rencontre pour Zach. Oui. Et lui, une mauvaise rencontre pour moi. Je veux être clair là-dessus.
Et Eva Bourceau, alors? Comment l'ont-ils connue? Eva, c'est surtout Tara qui la connaissait.
Eva, c'était une chouette amie. Parfois, je voulais pas la voir parce que c'était un peu un miroir pour moi. Je me voyais en elle. On a eu des discussions très lucides sur notre déchéance dans la drogue.
Pressentant que la drogue va devenir une excuse, une amie d'Eva explose à la barre.
Nous aussi, on prenait de la drogue. On n'est pas devenus des criminels. On n'est pas devenus des criminels. Faut être mauvais. Un être mauvais.
Et puis arrive le moment de raconter pourquoi ils ont tué Eva. Et il y a d'abord l'explication de Tara.
10 jours avant, je suis allé dans une rave party, puis j'ai été volé. Alors j'ai demandé à Guillaume la liste des gens qui lui devaient de l'argent. Il m'a dit qu'Eva lui devait 1100 euros et qu'elle devait lui rendre le dimanche ou le lundi. Alors je me suis dit qu'elle avait l'argent chez elle.
Zach raconte que Tara lui envoie un SMS. Quand tu reviens sur Toulouse, on aura un super coup. Le dimanche 26 au soir, les deux copains se retrouvent. Ils prennent des amphétamines pures, un parachute de MDMA, et ils mettent au point le cambriolage d'Eva.
Ça m'a paru une évidence de faire ça. C'était la solution de facilité, quoi.
Dans le milieu de la drogue, on n'a plus d'amis. Mais Zach n'a présenté aucune résistance. Au contraire, on s'est encouragés mutuellement. Il disait que c'était une bonne idée.
Une avocate fait alors remarquer que Taha n'avait que 128 euros de découvert à la banque, qu'il n'y avait rien de catastrophique. Réaction de Taha.
Je sais. Je vivais dans une réalité complètement déformée, accentuée par la prise de drogue. Je ne sais pas pourquoi j'avais peur de ces dettes. Je gérais mal mes comptes. On n'avait pas de suite dans les idées.
La fin du procès approche. Seront-ils condamnés à la même peine ? Dans son réquisitoire, l'avocat général réclame perpète pour Taha et 30 ans pour Zach. L'avocat de Zach, lui aussi, fait la différence.
Qui a eu l'idée du cambriolage ? Taha ? Qui a réuni les éléments pour la commission du cambriolage ? Taha ? Qui a utilisé l'argent ? Taha ? Qui a eu l'idée de dissoudre le corps ? Taha ? Et qui est allé à la police pour dénoncer Zacharia ? Taha ?
Le vendredi 21 décembre 2018, après plus de 4 heures de délibéré, la cour d'assises rend son verdict. Zacharia Banouni est condamné à 25 ans de réclusion criminelle et Taha Amrani Alaoui à 30 ans. Aucun des deux ne fait appel. En détention, Taha a validé sa licence de mathématiques, mais il ne reçoit aucune visite. Zacharia, lui, a passé une licence d'anglais. Il a commencé des études de lettres modernes. Il ne veut plus jamais entendre parler de mathématiques.
Vous écoutez Ondelatte raconte jusqu'à 15h sur Europe 1. On retrouve tout de suite Christophe Ondelatte.
Je vous ai raconté aujourd'hui une affaire criminelle de 2015, le meurtre d'Eva Bourceau, que l'on retrouve morte début 2015, baignant dans un bain d'acide, une histoire que j'ai tirée d'une série publiée par le site slate.fr, série que vous avez écrite, Élise Costa. C'est un travail de fou d'ailleurs au passage. Disons Merci. Les choses, combien d'années de travail pour sortir un papier comme celui-là? Vous êtes au début de l'histoire?
Je suis au début de l'histoire, 2 ans et demi avant le procès. Bon, après, ce n'est pas du plein temps, mais 2 ans et demi avant, j'ai commencé à aller voir les gens, à essayer de me renseigner. Etc.
Vous avez vu tout le monde?
J'ai pas vu tout le monde, mais j'ai vu... Moi, mon but, c'était de voir non seulement les avocats, mais ça, c'est facile, mais aussi les membres de la famille d'Eva Bourceau et puis les membres de la famille ou les amis des accusés.
On reviendra sur la manière dont vous racontez ce que je n'ai pas pu faire, leur réaction, leur suivi de cette affaire jusqu'au procès. Si on en reste pour l'instant au verdict, ce que dit le verdict, c'est que Taha est l'instigateur de ce meurtre. Ça n'est pas considéré comme un assassinat à l'issue, c'est-à-dire qu'on ne retient pas la préméditation, mais que Taha est l'instigateur et que Zach a suivi Taha,
c'est
a
ça.
Été influencé par Taha, s'est fait entraîner par Taha.
C'est ça, mais ça s'explique aussi par le fait qu'ils avaient une différence d'âge. Zacharia Banouni avait 18 ans au moment des faits et Taha Amrani Alaoui, il avait 21 ans. Et quand on est si jeune, 3 ans de différence, c'est quand même important.
Alors, si on reprend les choses au début, au moment de la mort d'Eva, qui sait que Eva consomme massivement des drogues et qu'elle en vend?
Alors, ses amis, à elle, en premier lieu, et puis bien sûr, Taha Amrani.
C'est pour ça qu'elle était fâchée avec ses amis. C'est aussi pour ça que ses copines, au début... ne trouve pas surprenant qu'elle ne leur donne pas de nouvelles. Elles se sont engueulées quelques jours avant.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ses copines lui ont expliqué que là, ça commençait un peu à craindre et qu'il fallait qu'elle mette, qu'elle freine un peu. Ouais.
Les copines sont-elles surprises quand elles apprennent qu'Eva a été assassinée? Ou quelque part, cette issue terrible était-elle inscrite dans l'histoire qui se jouait sous leurs yeux?
Elles sont très surprises de ce qui s'est passé, mais... malheureusement, elles ne sont pas si surprises que ça qu'on les appelle pour leur annoncer la mort d'Eva. Mais après, ça diffère selon les amis. Certaines pensaient peut-être à une overdose ou à un suicide. En revanche, les circonstances et tout ce qui s'est passé, non, tout le monde a été effondré et vraiment surpris, ouais.
Les parents, qu'est-ce qu'ils savent les parents au moment où donc on les appelle? Vous mentionnez ce coup de fil du capitaine de police Sens,
oui,
de la PJ, qui appelle le père pour le prévenir qu'on va parler de drogue dans les jours qui viennent et que sa fille va être traitée de dealeuse. Mm. Il savait, le père?
Non, le père ne savait pas. D'ailleurs, il comprenait pas et il le prenait très très mal que tous les journaux à l'époque, parce qu'on avait très peu d'informations à l'époque, que tous les journaux parlent de sa fille comme d'une junkie. Ce qu'elle n'était pas, hein, au passage.
Pas tout à fait.
Non.
Et la mère savait? La mère était plus proche de la fille.
La mère, Eva et sa mère étaient très très proches. Elles avaient une relation très fusionnelle. Et Eva a pu glisser à sa mère, effectivement, qu'elle Je vends des trucs. Sauf que Eva avait l'art et la manière. Eva était une fille très intelligente. Et elle avait l'art et la manière de présenter les choses. Et sa mère, qui n'a jamais fumé de cigarette, même de sa vie, n'a pas compris, en fait, ce qui se passait.
Elle a cru que c'était de la brocante, qu'elle vendait des fringues à elle.
Oui, son père a cru qu'elle faisait des vide-greniers, et puis sa mère a cru qu'elle dépannait des copines comme ça en soirée. Elle n'a pas saisi, quoi.
L'idée du bain d'acide. La presse aime ce genre d'inspiration, les séries télévisées, les films, enfin, c'est pas nouveau. Ça vient vraiment de la première saison de la série Breaking Bad?
C'est ça, c'est ce que t'as, et Zacharia explique, c'est qu'un jour... Parce qu'ils reviennent plusieurs fois à l'appartement d'Eva Bourceau, et puis un jour, ils tombent sur des petits sachets bleus, et ils pensent qu'il y a de la drogue dedans. En fait, c'est du sucre. Et ils disent, on dirait la série Breaking Bad. Et de là s'enchaîne le fil de la pensée qui se déroule et qui dit, ah ben justement, dans le premier épisode...
On dissout un corps
à l'acide. Voilà. Je pense que c'était une série qu'on regardait beaucoup à l'époque et qu'effectivement, c'était...
Ça les a influencés. Quand Ta vient dénoncer son copain Zach, pourquoi est-ce qu'il le fait? Alors on sent qu'il vient avec sa copine, c'est sa copine un peu qu'il traîne au commissariat,
tout à fait, ouais,
parce qu'il lui a un peu avoué les choses, et elle lui a dit, il y a ton ADN forcément dans l'appartement, c'est-à-dire à un moment donné, il faut que tu prennes les devants, quoi.
Ce qui s'est passé surtout, c'est qu'en fait, il lui dit, Flora, il faut que je t'explique, Zach a fait une connerie, il a tué Eva avec Guillaume. Et elle se dit, oh là, quoi, un meurtre, je veux absolument pas être mêlée à ça. Tu sais quelque chose, on y va tout de suite. Et c'est pour ça que on a notamment au procès, on a beaucoup dit t'as s'est rendu. Bon, il s'est rendu, mais il a été un peu tiré par la manche.
Il fait un très mauvais calcul à ce moment-là, c'est-à-dire que s'il avait réfléchi froidement, il aurait su que la conséquence de ça, c'est que Zach allait être interpellé, que lui allait raconter la vérité de ce qui s'était passé et qu'il allait se retrouver mouillé là-dedans.
Je ne suis pas sûre qu'il se soit dit ça parce que Zach et Taha avaient passé un pacte où il s'était dit qu'il resterait solidaire quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Je ne sais pas, mais en tout cas, à un moment, l'horreur les a rattrapés et je pense qu'il voyait bien qu'il n'avait pas d'autre solution que de se rendre, quoi. Effectivement, d'aller parler à la police.
Il a une autre solution, c'est de fuir au Maroc?
Oui, parce qu'il a un passeport marocain et d'ailleurs, il n'a pas la nationalité française. Donc, c'est ce qu'il aurait pu faire. Il ne l'a pas fait.
Il décide de faire face. Zach, interrogé, avoue tout devant les policiers. J'ai pu donner dans mon récit l'impression d'aveu extrêmement linéaire et extrêmement construit. En vérité, on a affaire à un gamin qui est en manque et qui donc raconte les choses de manière assez décousue, il transpire beaucoup, et il a envie de dormir, même le lendemain matin.
Oui, ils sont épuisés. Ils sont épuisés probablement par deux choses, par le fait qu'ils consomment énormément de drogue, et puis que parmi mine de rien, ça les travaille quand même un peu, et je pense qu'ils n'en dorment plus la nuit.
On va marquer une nouvelle pause, et ensuite on va aborder la question, celle de la raison. Est-ce qu'il y en a une? Le procès en a cherché une? Ils ont dit des choses. Est-ce que néanmoins on peut tirer un fil en disant ben c'est parce qu'ils n'étaient pas bien soumis à la pression qu'ils ont consommé de la drogue et c'est parce qu'ils ont consommé de la drogue qu'ils ont tué Eva? On en parle juste après la pub.
Il est 14h48, on retrouve tout de suite Christophe Ondelatte pour la suite et fin de On de la traconte sur Europe 1.
Je vous ai raconté aujourd'hui une affaire criminelle de 2015, le meurtre d'Eva Bourceau, que l'on retrouve morte début août 2015, baignant dans un bain d'acide chlorhydrique. Ces deux meurtriers sont très vite arrêtés. Ils s'appellent Taha Rani Alaoui et Zacharia Banouni. Tahar a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Et Zacharia Banouni est condamné, lui, à 25 ans de réclusion criminelle. Et j'ai tiré mon histoire d'un article d'Élise Costa sur le site Slate.fr, une série en vérité, 9 épisodes, un très long texte, extrêmement rare en presse écrite, presque un livre d'ailleurs. Est-ce que vous êtes tenté d'en faire un livre?
Si je le fais, il faudra revoir complètement la structure, mais oui, pourquoi pas.
Ouais, ça serait intéressant parce que vous avez fait un travail, vous êtes rentré dans une affaire comme on le fait rarement, en voyant la totalité des protagonistes, en connaissant la totalité du dossier. Alors, on en vient donc à la recherche du pourquoi, qui est la clé, en vérité, de votre travail. Si on veut simplifier les choses, il y a une explication qui s'offre à nous, qui est de dire qu'on avait là deux étudiants brillants qui connaissent des échecs dans leurs études, et par ailleurs des relations compliquées avec leur entourage, sur la manière de gérer ces deux échecs, et qui, à partir de là, tombent dans la drogue, et qui, la drogue ayant pris le dessus sur leur vie, à un moment donné, commettent un geste qu'en vérité, hors drogue, ils n'auraient sans doute jamais posé. Est-ce qu'en disant ça, j'ai tout dit ?
Alors, oui, c'est bien résumé, mais effectivement... Quand on fait le procès, etc., on n'est pas là pour excuser, jamais, surtout dans ce genre de meurtre. Mais vraiment, on essaye de comprendre comment deux jeunes gars brillants peuvent en arriver là. Et ça a été vraiment la clé de l'enquête, je pense. En tout cas, des enquêtes psychologiques, de se dire qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, dans leur histoire, pour qu'ils en arrivent là. Et effectivement, tu as Emrani Alaoui. Lui, il vient d'un milieu très aisé. Au Maroc, il est très choyé, limite il ne sort pas de chez lui, il révise tout le temps, il lit beaucoup de philosophie, il est tout le temps en train de faire des maths. Et Zakaria, lui, vient aussi d'une famille très choyée, plus modeste, mais où on essaye vraiment de s'en sortir par le haut et par les études. Et quand chacun rencontre un échec à peu près à la même période, il commence à consommer de la drogue, et puis de plus en plus, et il s'enferme là-dedans, et surtout il s'enferme à deux là-dedans. Ils deviennent vraiment... Il y a un des témoins qui disait qu'à un moment donné, même pour parler à Zakaria, c'était compliqué parce que Zakaria ne parlait plus qu'avec Tahar.
Ce qu'on découvre aussi à cette occasion, ce n'est pas la polytoxicomanie, parce qu'on sait que ça existe, mais c'est que tout ça est acheté sur Internet, sur le Darknet.
Sur le Darknet, ouais.
C'est-à-dire que ce ne sont pas des dealers qui vont au fin fond de la banlieue ramener des kilos en cachette planqués dans leur mobylette. Ce sont des paquets qui arrivent par la poste.
Ah oui, c'est très simple. C'est très simple, même chez eux, directement chez eux. Et c'est le cas aussi pour Guillaume, qui d'ailleurs reçoit des colis un peu plus importants. Et puis après, il les dispatche entre ses petites mains, on va dire, donc entre Taha et Eva.
Il porte au procès une culpabilité, un poids de culpabilité important ou pas ? C'est-à-dire, ils arrivent à ce procès la tête baissée, en reconnaissant l'horreur de ce qu'ils ont fait ?
Oui.
Ou bien est-ce qu'à un moment donné, ils essayent de se sortir individuellement de ces accusations ?
Mais après, c'est comme souvent les procès où il y a deux accusés, ils ne se regardent jamais, ils ne se parlent jamais, ils ne se confrontent jamais. Zakaria était vraiment il était vraiment prostré, il avait vraiment la tête baissée, il regardait ses chaussures en permanence. Peut-être parce que ça l'aidait aussi à entendre un peu mieux ce qui se passait. Et Taha avait une attitude plus... Comment dire, il regardait beaucoup plus frontalement, ce qui ne veut pas dire qu'il était dans une attitude de défi, mais en tout cas, il assumait, il essayait d'expliquer au mieux, en tout cas.
Deux réactions différentes des deux parents, de part et d'autre, des deux gamins. Les parents de Taha ne sont pas là.
Non.
Ils n'ont même pas payé l'avocat.
Non, les parents de Taha ne sont pas là, et même, ça va plus loin, il n'y a aucun...
Ni
membre de la famille, ni ami de Taha qui sont présents au procès.
Alors que les parents de Zach sont là.
Ils sont très présents, oui.
Et ils continuent d'aller le voir en détention.
Oui.
Ils assument, quoi.
Ils assument, et puis je pense que pour eux, c'est leur fils, et donc on ne va pas le laisser tomber. Pour autant, ils rejettent complètement ce qu'il a fait, et vraiment, ils ont la honte. En fait, quand on les voit, on voit vraiment qu'ils portent cette honte et cette culpabilité.
La honte.
Ouais. Et ouais. Énorme, énorme.
Vous avez été tenté d'aller les voir en détention depuis leur condamnation, ou pas, et l'un et l'autre ?
Ben, c'est vrai que quand on travaille sur ce genre d'affaires sur une longue durée, on a tendance toujours à penser que le sujet n'est jamais terminé. Et effectivement, il y a peut-être des questions qui sont toujours en suspens et dont on n'aura jamais la réponse, si ce n'est eux, quoi.
Ben, tant que vous êtes parti à raconter tout du début jusqu'à la fin, alors ça serait intéressant de raconter la détention, le chemin qu'ils vont faire en détention, par rapport aux actes qu'ils ont commis et par rapport à la toxicomanie, et puis leur libération. Et c'est là qu'on aura une histoire intégrale.
Oui.
Vous êtes au début d'une histoire, si ça se trouve.
C'est ça. Ouais, il faudrait raconter l'après, et même pour la famille d'Eva Bourceau, de savoir comment... Moi, ça m'intéresserait beaucoup...
Quel chemin ils font ?
Quel chemin ils font et comment ils vivent ça. Parce que, par exemple, le père d'Eva, Christophe Bourceau, a dit à la barre une phrase très juste. Il a dit vendredi, quand ce sera fini, le jour du délibéré, tout le monde va rentrer chez soi et moi, je serai encore là avec ma douleur. Donc, comment il va vivre avec cette douleur et comment il va essayer peut-être de la transcender, d'en faire quelque chose, ça m'intéresse.
Le père d'Eva, d'ailleurs, qui vit une expérience mystique autour de la mort de sa fille, quelques jours après sa mort. Elle avait une chouette, il faut expliquer ça, tatouée dans le dos.
C'est ça, oui.
Eva, qui sera d'ailleurs un des signes pour reconnaître que c'est elle sur le cadavre. Quelques jours après sa mort, qu'est-ce qui lui arrive au père ?
Eh bien, le père d'Eva est dans son camion, et il est seul et il voit une chouette entrer...
Par la fenêtre ?
Ouais, dans le camion qui la regarde. Et après, elle est restée là et elle a continué à faire sa vie autour de chez lui.
C'est très intéressant et c'est un des aspects les plus intéressants de votre travail, c'est ce que vous avez raconté sur ce que vivent les parents, les amis, de part et d'autre, des faits eux-mêmes. Moi, je suis resté collé aux faits, mais si donc il vous intéresse d'aller plus loin, je vous invite à aller sur slate.fr, lire cette très belle série d'Élise Costa en 9 épisodes autour du meurtre d'Eva Boursault. Merci beaucoup, Élise.
Merci à vous.